blanche.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Du coup, maintenant, ce qui va nous intéresser, Vincent, encore une fois, c'est de comprendre ce qui a construit l'homme que tu es, d'où tu viens. Et je crois que c'était sur l'épisode avec Benjamin Guéniaud. Olivier avait proposé cette question que je trouvais intéressante pour lancer finalement nos parties 2 à partir d'aujourd'hui. C'est quel entrepreneur, quel manager es-tu ? Je crois que c'était à peu près ça, hein, ta question à Benjamin. Quel entrepreneur es-tu ?
Waouh, bonne question. Il faudrait demander là aussi aux gens qui travaillent avec moi. En fait, alors j'ai un terme qui revient. Alors peut-être parce que derrière, il y a cette idée de liberté. On parlait de libéralisme, etc. Et un podcast que je recommande de Master of Class, de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, avec Eric Schmidt, le patron de Google. Et il parle de... son rôle était de manage de chaos. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'en vois souvent aux gens qui nous rejoignent. Cette idée d'accepter qu'une entreprise, quelque part, je vois des fois un peu les 450 personnes qui sont chez nous comme aussi des freelances. Parce que justement, j'ai envie qu'ils se sentent libres, par petite équipe ou au niveau individuel. Et quelque part, c'est accepter une certaine forme de chaos. Ça veut dire des fois accepter un désalignement, mais au bénéfice de la vitesse. Les boîtes de la tech américaine sont souvent organisées comme ça. Tu vas avoir plein de petites équipes, tu vois, des squads, des tribes, enfin tu les appelles comme tu veux, et qui vont des fois faire avancer sur des projets en même temps un peu concurrentiels, mais quelque part au bénéfice de la vitesse globale. Donc je pense que j'accepte, si tu veux, je suis quelqu'un d'abord qui délègue facilement, qui a pas arrêté de recruter meilleur que moi et sur toutes les fonctions, et assez rapidement, tu vois, de lâcher le truc. Ça, c'est quelque chose qui surprend souvent les gens, c'est-à-dire que, j'en parlais par exemple, j'étais country manager sur l'Allemagne là, encore jusqu'à décembre, j'en parlais la semaine dernière avec notre nouveau country manager, il dit, voilà, on était dans une réunion d'équipe avec l'équipe allemande, une quinzaine de personnes, et tu leur as dit, bon ben voilà, c'est ma dernière, merci, au revoir. Et il y a une petite transition, mais je pense qu'il faut pas hésiter à faire que les gens se lancent. Donc je pense que je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens, qui délègue et qui essaye de recruter des très bons et meilleurs que moi. Je pense que souvent, d'ailleurs, des boîtes, si tu veux, restent à un certain niveau parce qu'ils ne font pas cet effort, par question d'ego, etc., de prendre des gens qui vont être très bons en dessous d'eux.
Je pense que faire confiance aux gens, il me semble, c'est une double démarche. Il y en a une qui est... Bah, en quelque sorte, c'est l'empowerment, comme on dit en anglais. C'est de permettre aux autres de s'épanouir. C'est une démarche généreuse. Et puis, il y en a une autre qui est plus introspective aussi, qui est aussi... du coup, reconnaître ses limites. C'est parce que si on a trop confiance en soi, on ne voit pas ses propres limites. Et par définition, personne n'est un homme orchestre ou une femme orchestre. Mais alors, quelle est votre organisation aujourd'hui ? Parce que là, on a parlé beaucoup de Malte, là, on parle de toi, mais c'est pour arriver à toi, quel est ton rôle aujourd'hui dans l'entreprise ? Il y a l'entrepreneur, le cofondateur de Malte, mais il y a maintenant aussi des nouveaux cadres qui sont arrivés. Donc, je ne sais pas quel est ton titre, d'ailleurs.
Ouais, je suis toujours CEO. J'ai un rôle qui évolue chaque année, en fait. C'est quelque part ça aussi qui fait que ça me passionne, hein, et que j'ai l'impression qu'on est toujours au début. Aujourd'hui, si tu veux, alors jusqu'à, effectivement, comme je disais, début d'année, je m'occupais pas mal de l'Allemagne. On a racheté une boîte en Allemagne, Comatch, donc c'est notre première acquisition. C'était un gros enjeu pour moi de travailler sur ça les derniers mois. Et maintenant, on commence à travailler sur l'intégration. J'étais jusqu'à peu de temps, j'étais aussi CPO, donc avec mon associé fondateur, qui est lui et CTO, on joue un peu ce rôle tous les deux. On a développé l'équipe là, sur les 6 derniers mois et on a recruté une CPO qui vient de démarrer, qui à mon avis va être incroyable, qui arrive de Vinted à Berlin aussi. Donc finalement, je pense que le sujet, c'est de ne pas avoir peur du vide. Et il y a 2 ans, la démarche que j'ai faite, c'est de recruter un directeur général, Alexandre Fréty. C'était aussi pour ça que je voulais aller en Allemagne. Je voulais aller en Allemagne pour 2 raisons. Je voulais aller en Allemagne pour développer l'Allemagne, montrer la confiance, montrer à l'équipe en France que l'Allemagne était importante. Mais aussi laisser la place à quelqu'un qui allait arriver, meilleur que moi sur beaucoup de fonctions, meilleur que moi surtout sur cette expérience d'avoir scalé. Lui, il a travaillé chez Webhelp 12 ans, il a vu la boîte passer de 30 millions à 2 milliards quasiment de chiffre d'affaires, et en particulier sur le management des opérations sales, puisque une grosse partie de nos revenus venait des corporates. Voilà, ce chiffre vers les corporates. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on co-dirige la boîte avec chacun ses forces, en fait. Moi, j'ai l'historique, je sais où on veut aller. J'ai ce côté très proche de la communauté, très brand et très produit. Lui a ce côté très sales, très corporate, très gestionnaire. Et on se complète en termes de personnalité hyper bien.
Tu évoquais un rôle de CEO qui a forcément évolué d'année en année en fonction de l'évolution de la boîte. Est-ce que, alors tu es encore là évidemment, mais est-ce qu'il y a eu dans ces différents rôles, dans ces différentes postures qu'il a fallu avoir, un moment où tu ne t'es pas senti à ta place ?
Écoute, peut-être un des moments les plus durs, c'est que juste avant qu'arrive Alexandre, j'étais head of sales pour la France, alors que j'habitais à Munich et je passais ma vie, je pouvais pas bien faire Munich et en même temps je devais revenir à Paris toutes les semaines pour être le patron des sales. Et je pense pas du tout être le meilleur manager de sales. Je l'ai fait longtemps. J'ai fait moi-même sales. J'ai fait ensuite manager des sales en m'appuyant aussi sur Quentin qui était là quasiment depuis le début. Et ça, c'était pas forcément, c'est pas forcément mon kiff. Moi, je pense que Quentin pourrait toujours dire, il dirait, toi, t'es l'homme t'aimes travailler sur la vision, un peu tout ce qui est travailler sur l'avenir, travailler looking forward. Et quand il faut atterrir les choses, j'aime m'entourer de gens qui savent mieux faire ces choses-là que moi.
Je me rends compte qu'on n'en a pas parlé du coup dans la première partie, mais de toute façon, on est là ensemble, donc on parle bien de ce qu'on veut. T'as parlé de ta casquette très brand. On n'a pas parlé du changement de marque dans cette première partie de ton podcast. Et je trouvais ça intéressant quand même, ce moment où on se dit, va falloir se réinventer et proposer, présenter différemment.
Est-ce que c'est une envie personnelle ou est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi, je crois, quand même une marque américaine qui ressemblait un petit peu au précédent nom?
J'aurais dû le citer tout à l'heure dans les moments clés, effectivement, où on a ouvert le champagne. Et ça a été vraiment un moment clé de la boîte.
En fait, le premier nom.
Upwork, donc H-O-P-W-R-K. Upwork, et effectivement, un Américain qui est la fusion de deux boîtes se renomme Upwork. Ça nous posait problème parce qu'on était justement sur le même marché ou espace sur le sujet freelancing, mais avec un type de freelance, un type de client très différent, un positionnement surtout très différent, et puis on nous confondait tous les jours. Donc on s'est rencontrés, on a pas mal discuté avec cette boîte, on s'est mis d'accord, et nous, quelque part, ça nous a obligés, mais c'était finalement positif.
Pardonne-moi pour comprendre la chronologie, c'est eux qui sont devenus Upwork après vous.
Voilà, c'est ça, on avait la marque, nous, en Europe.
Alors, vous discutez,
c'était
vous mettez d'accord.
C'était pas exactement la même marque, mais très très proche.
Très proche. Et du coup, vous mettez d'accord, mais vous mettez d'accord sur quoi?
Alors, c'est un peu confidentiel. ça le reste encore. Il faudrait que j'interroge les avocats. Mais on s'est mis d'accord. En tout cas, on a trouvé une solution positive pour les deux. Et on a fait ce choix, nous, donc, de changer de marque, mais qui était un choix, finalement, on s'est dit, c'est une occasion de communication. C'est une occasion de choisir. Souvent, moi, je trouve que c'est un sujet que j'aime beaucoup, tu vois, dans le cadre de France Digital ou d'autres boîtes. C'est vraiment peut-être un des trucs sur lequel beaucoup d'entrepreneurs m'appellent à peu près tous les mois, tu vois, pour me demander conseil là-dessus. Je sais que Fred de Mazzella a vécu ça avec Blablacar aussi, et aussi un expert du sujet maintenant, ou adore ça. C'est vraiment une super occasion de se poser, de se dire on est quoi, et de se lâcher, en fait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes, elles commencent avec un nom très start-upy. Tu vois, pas inspirationnel, pas difficile à retenir. Et je pense que, je ne sais pas si c'est une erreur, je ne sais pas si on peut commencer autrement, mais souvent je vois des boîtes qui commencent avec des noms comme ça, mais c'est vrai de très grosses boîtes, hein, des Google, des Slack, etc., qui changent vers quelque chose qui finalement, tout à l'heure, je ne sais pas, on parlait de musique, David Bowie, ou de, tu vois, quand on a changé de nom, on travaillait avec un groupe de travail, je leur ai dit à un moment, écoutez, on va arrêter, on sait qui on est, mais on va penser comme si on était un groupe de rock. On va pas s'appeler, rockeo.com, tu vois. Et on va se lâcher. Les Rolling Stones, ils s'appellent les Rolling Stones. Et pourquoi? Voilà, il y a une inspiration d'une chanson, etc. Donc, et on s'est lâché. Et le Malte est venu du hop, le hop, tu vois, tu fais le, avec le hop, le houblon, tu fais la bière ou le whisky. De là, on est arrivé au malt. Le malt, il y avait le lien avec la communauté, il y avait le lien avec le fait que le malt est fait par des malteurs qui sont des artisans, comme les freelances.
J'ai l'impression que vous avez bu pas mal de bière avant de brainstormer quand même.
Bah ouais, c'est vrai qu'on était chez WeWork, ouais. Il y avait la bière gratuite à ce moment-là. Donc ça nous a.
Ce non, qui mais explique ouais. que vous avez okay, coulé non, mais... ce jour-là, WeWork.
C'est vraiment, dans la French Tech, c'est un des beaux exemples, et c'est vrai, bah, on parle souvent effectivement, en gros, de malt et de Blablacar. Moi, je l'ai vécu aussi parce qu'on avait créé Pricesner, on a dû changer, mais on n'a pas choisi la marque. C'est comment on passe d'une marque, c'est Rakuten maintenant, qui n'a rien à voir et qui ne veut rien dire. Mais donc, il y a le processus de choix de nom, et puis après, il y a le processus de brand switching, c'est-à-dire le parcours, une fois qu'on a choisi son nom, comment on l'accompagne. Est-ce qu'il y a des enseignements que tu veux nous partager une fois que le nom est choisi? Qu'est-ce qui fait que tu ne perds pas tes clients, que tu ne perds pas tes freelances, que tu rebondis là-dessus?
Ça a été un énorme boulot. Il y a même, je crois, sur YouTube, une de nos product managers qui explique comment on a fait ça niveau produit. En fait, ça a été d'abord... Alors, je parlais de petite équipe. Moi, je crois au Two Pizza Team, tu sais, de Jeff Bezos, d'avoir une petite équipe. Donc, en interne, si tu demandes à tout le monde, ça ne marchera pas. Donc, il faut créer une petite équipe. Et une fois qu'on est sûr, au sein de cette petite équipe, on présente le nom au reste de la boîte, mais on le présente déjà packagé. C'est-à-dire qu'on le présente déjà avec le design, avec l'environnement graphique, et on en fait un show. Donc, comment on a fait, et peut-être une des premières recommandations, c'est qu'on a créé on a fait un HoloLens. On est arrivé avec de la musique, des t-shirts avec notre marque. On a enlevé le t-shirt et puis il y avait la nouvelle marque. Les gens étaient surpris, mais en même temps, voilà, avaient envie d'applaudir, etc. Et puis après, très concrètement, on a sur le site fait une transition progressive. On a aussi, encore une fois, moi je crois à cette hybride online et offline. On a envoyé à nos meilleurs clients et aux meilleurs freelances, on a envoyé une box avec dedans des goodies, des stickers, avec un message, avec un manifeste de pourquoi on changeait de marque. Ça a été super apprécié. C'est des gens qui sont devenus tous des ambassadeurs. Et voilà. Et finalement, encore une fois, ça a été une super occasion de communication.
Alors, on a parlé de la marque et on va pouvoir revenir à l'homme. C'est vrai que, comme tu le disais, tu n'es pas non plus le tout jeune entrepreneur. Je suis plus âgé que toi, donc je peux me permettre de te le dire. Mais tu as eu d'autres expériences. Mais est-ce que... Quand on t'a posé la question de quel entrepreneur tu es, mais il y a aussi quel entrepreneur tu es devenu aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, bah, tu as fait venir un DG qui était passé chez Webhelp. Donc, il y a un spécialiste un peu du scale, hein, enfin, donc de la passage à l'échelle. Enfin, on avait dit échelé. On voulait inventer un mot un peu québécois pour dire scaler en français. On a dit échelé. C'est une proposition de Frédéric Mazzella. Est-ce que cette question-là, c'était... aussi une question, toi, de comprendre tes limites, en plus de vouloir lancer l'Allemagne, de dire, j'ai des limites, il y a des choses que je ne sais pas faire, ce qui pourrait être le cas, ou alors c'était parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, ça peut être le cas aussi, ou est-ce qu'il y a encore autre chose dans les ressorts de ton périmètre aujourd'hui?
C'est vrai qu'au départ, tu es obligé de tout faire, et je faisais des choses que je déteste, type l'administratif, la finance, etc., et puis au fur et à mesure, tu délègues et tu peux te concentrer. Quelque part, je retrouve aujourd'hui ce que j'avais au tout début. Dans la phase du tout début, tu as beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser, parce qu'il n'y a pas d'opération, tu n'as pas de client, etc. Et là, je retrouve quelque chose où si tu es bien staffé en dessous, tu te laisses du temps. Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs, je pense, ont peur, parce que voilà, ils ont peur du vide. Mais je pense que le vide est nécessaire de pouvoir se créer des moments de réflexion. Si moi, je veux pouvoir réfléchir à... Aujourd'hui, notre enjeu, c'est pas tant de savoir comment on va scaler la France ou échelé la France, c'est plutôt comment on va aller plus vite à l'international, donc quelles acquisitions on va faire, avec quelle boîte, comment on va trouver les bonnes personnes, les bons country managers, comment on va aller plus vite sur le produit. Donc pouvoir être justement forward-looking, ça demande du temps, donc ça demande effectivement de pouvoir lâcher de plus en plus de choses. Et après, moi, très concrètement, on parlait des investisseurs, à quoi ils servent. Un de mes investisseurs, il y a, je ne sais pas, 3 ans, 3-4 ans, ils m'ont dit, tiens, il y a cette personne qui est coach, qui est une dame d'un certain âge, pas du tout, tu vois, les gens, effectivement, au milieu start-up, etc., mais qui a coaché des grands patrons, des entrepreneurs, etc. Et c'est quelqu'un avec qui j'échange au moins une fois par mois, on se voit, et on est en WhatsApp un peu tout le temps, et qui me permet d'avoir un regard sur moi-même, tu vois, où elle va... des fois, tu vas manquer de confiance en toi, elle va te dire, mais non, mais t'es super bon sur ça, etc. Et à l'inverse, elle va dire, non, mais ça, c'est ta limite, ça, il faut que tu le laisses, etc. Donc, je pense que c'est super important. Là aussi, vous parlez d'isolement. L'entrepreneur, enfin, Napoléon disait, tout pouvoir est solitaire. Il faut savoir trouver des gens, d'autres entrepreneurs. Il faut savoir s'entourer d'investisseurs qui vont être aussi des gens qui vont te conseiller, mais aussi peut-être de coachs ou de gens comme ça.
Tu parlais du temps que tu commences à retrouver. C'est ce temps-là, il sert à s'inspirer. C'est des moments aussi de respiration.
S'inspirer. Respirer.
C'est une rubrique qui me tient à cœur parce que je sais que les entrepreneurs, ils ont une passion. Et leur passion, c'est la création de leur entreprise. Et je vois parfois aussi certains entrepreneurs qui, à force de parler que de ça, deviennent un peu chiants et emmerdants. Et ils emmerdent leurs potes. Et on n'a plus envie d'aller boire des coups avec eux parce que ça devient le seul truc. Et ce qui est sympa, et c'est le cas avec toi, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup nos échanges, parfois dans le cadre de France Digital ou d'autres, c'est que tu as une ouverture. Et c'est du coup la question est très pertinente pour toi. C'est comment est-ce que tu trouves cette énergie, le fait de rester souriant, de communiquer ce côté positif. Est-ce qu'il y a des lectures, des films, du sport, d'autres choses, ou est-ce que finalement ça suffit de faire ce que tu fais?
Non, mais moi clairement c'est l'autre chose, c'est ma famille. J'ai trois enfants. Ma femme, on s'est rencontrés il y a longtemps au Mexique. Donc qui culturellement m'apporte des choses aussi assez différentes. Elle-même entrepreneur, c'est-à-dire commencer en salarié, mais elle a à un moment shifté en devenant chef à domicile, donc dans le métier de la food en fait, donc complètement différent mais indépendante. On était tous les deux,
si tu veux, la cuisine mexicaine.
Voilà, cuisine mexicaine. Elle a été en fait, pour la petite histoire, elle a été quand Airbnb aussi, deuxième histoire d'Airbnb, a lancé les expériences. Ils ont testé ça en France. Et la première à faire Airbnb Experience, c'était cours de cuisine. Alors là, pour le coup, française, c'était ma femme qui faisait chez nous. En fait, j'ai financé une grosse partie de la boîte, pour être très honnête avec vous, avec Airbnb. Soit elle qui travaillait via Airbnb, soit mon appart que je louais. Et j'allais le week-end quand je pouvais chez mes parents pour financer la boîte à ses tout débuts. Donc, non, mais ma famille, dans le sens où... on parlait de work-life balance, tu as complètement raison. Alors, bien sûr, je suis quelqu'un assez addict. Les équipes pourraient te dire, je suis assez bon sur la veille, à surveiller les tendances, etc. Mais je suis aussi addict sur les réseaux sociaux, Twitter en particulier. Donc, c'est toujours un débat avec ma femme qui me pousse à me déconnecter le week-end. Mais avoir trois enfants, et j'ai eu, on a commencé en 2013, en 2016, j'ai eu des jumeaux. Donc, j'avais déjà... un fils, j'en ai eu deux autres d'un coup.
Ça fait des petites nuits.
Ça te met de l'humilité. Et pour le coup, tu te dis que le boulot d'entrepreneur, à la limite, il est simple par rapport au boulot, d'avoir à gérer ce boulot de père, une logistique assez incroyable. Et quelque part, c'est mon équilibre. C'est-à-dire que le week-end, pour moi, il est dédié à ça. Tu vois, c'est en ce moment, donc j'habite Munich. Le week-end, c'est on part, on va. Alors, c'est une ville où on sort facilement dans les lacs, dans la montagne. Et c'est focus sur ma... Et quelque part, ça te remet les pieds sur terre, tu vois.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu parles aussi d'une période qui commence à dater un peu, mais où la boîte a grandi, où t'es staffé, etc. C'est vrai qu'au début d'une boîte, on a souvent tendance à vouloir tout donner, toute son énergie. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque, au moment en tout cas où tu es devenu père, de te dire le week-end, c'est sacré?
Alors, au début, non. Je devais bosser. J'avais pas le choix. La semaine, tu faisais les trucs, je dirais, qui apportent de la valeur. Et puis, le week-end, tu faisais l'administratif, tu faisais tous ces trucs-là. Donc, j'avais pas le choix. Après, c'était plus simple au tout début. J'avais un enfant en bas âge. À partir du moment où j'ai eu deux autres enfants, j'ai dû, effectivement, m'organiser autrement. Et c'est assez sain. Quelque part, tu disais, on n'est plus des jeunes entrepreneurs. Moi, j'admire les gens qui arrivent juste après l'école à monter une boîte, à être manager, à scaler, etc. C'est incroyable. Ensuite, les stats te montrent que les taux de réussite sont meilleurs. J'ai appris ça après, mais entre 35 et 45 ans, en gros, tu vois, parce que tu as déjà un réseau, tu as déjà une expérience, tu as vu des choses. Et je pense que justement, tu connais un peu mieux tes limites. Si j'avais fait à 25 ans, je ne me serais jamais arrêté. Et s'il y avait des événements tous les week-ends, tous les trucs, franchement, tu sais comment c'est, tu peux tous les soirs être dans un truc de la French Tech et autres. Et après, tu fais un burn-out, c'est pas possible. Donc ça, quelque part, le fait de le faire plus âgé avec une famille, ça m'a équilibré naturellement.
De ce que je croyais comprendre et de ce que disait Olivier de toi, c'est que tu as aussi sûrement de l'inspiration dans des lectures. En tout cas, t'as l'air de t'intéresser à un certain nombre de sujets. Donc, au-delà de la famille, des rencontres, des échanges, peut-être ces moments tout simple. Tu disais aussi être très connecté. Qu'est-ce que tu vas chercher? Où est-ce que tu vas chercher justement cette inspiration dans des choses qui sont des pas de côté complets à l'entrepreneuriat et à la vie peut-être économique ou de ton monde du freelancing, ou au contraire, c'est très lié à la tech et à tes sujets quotidiens?
Non, j'essaye de regarder heureusement d'autres choses. Non, je pense là aussi, il y a ce côté chaotique de ma façon de m'informer, où quelque part un Twitter ou même un LinkedIn me va bien, dans le sens où je pense qu'il faut avoir... Alors d'abord, tu te rendras compte que tu interagis plus avec les gens que tu as connus justement par les hybrides, tu as connus dans la vie réelle ou tu as croisé sur un salon, etc. Mais une fois que tu suis des personnes que tu trouves inspirantes et que auprès de qui tu vas trouver les bonnes informations, finalement, il faut accepter que cette information t'arrive de façon déstructurée et de la restructurer derrière dans ta tête et accepter cet influx d'informations permanent.
Moi, je suis Vincent sur les réseaux sociaux et il est assez actif. Enfin, tu poses beaucoup de choses intéressantes, alors LinkedIn, Twitter, enfin, je ne suis pas sûr de tout suivre tout le temps. J'avais trouvé un truc assez marrant, c'est un petit clin d'œil comme ça, que je crois que c'est toi qui avais posté ça, que je l'ai réutilisé parfois. C'était comme on était tous en confinement, à distance, etc. Donc on commençait à s'installer le télétravail et petit à petit, plus personne ne voulait retourner au bureau. Et tu disais... tu te projetais, je ne sais plus quoi, en 2030. Et en 2030, il y a trois personnes qui sont autour d'une bière en train de travailler et qui disent, mais si on prenait un espace, on pourrait revenir régulièrement dans cet espace avec des chaises, des bureaux et tout ça, et on appellerait ça office.
Ouais.
Je ne sais plus d'où ça vient, mais c'est toi qui l'as transféré.
Ouais. Et puis, mais je me souviens d'un tweet au tout début de, encore une fois, Paul Graham, qui a été fondateur des Y Combinator, qui a dit, parce qu'on était tous à distance, qui a dit, mais et si demain... une boîte parce qu'elle travaille différemment et elle se retrouve dans un bureau disruptait peut-être un Google parce qu'il fonctionnait différemment, tu vois. Donc ce serait intéressant de voir de quoi l'avenir sera fait à ce niveau-là aussi. Ouais.
Je vois le timing qui passe, donc je propose quand même d'accélérer. Je crois que tu as été prévenu d'une possible carte blanche qui t'était offerte.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Écoute, moi je voudrais parler un peu de data et du bon usage de la data. On parle en ce moment beaucoup de ça. Nous-mêmes, on est une boîte qui utilise énormément la data depuis tout le temps. On a une équipe data assez incroyable. On vient de recruter d'ailleurs une VP data qui arrive de Airbnb. On est super fiers qu'elle nous rejoigne. Maintenant, je pense, lié à la data, on parlait de branding. Je crois qu'il faut faire attention et je vois beaucoup d'entrepreneurs se tromper sur certaines choses, tu vas en parler de brand aussi, et de vouloir tout mettre sur le compte de la data, tu vois, tout rationaliser, par exemple le marketing, Viva Technologies, voilà, on est très lié ici à Publicis, etc. Je pense qu'on oublie des fois dans les certaines startups à quel point le sujet brand, le sujet créativité sont très importants. On parlait de do things that don't scale, ça veut dire aussi accepter de ne pas mesurer. Et je pense que ce qui est des fois le plus puissant, c'est ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est-à-dire que la data, c'est très important quand on est dans une logique d'A-B test, d'optimisation. Mais l'optimisation, on le fait sur quelque chose de déjà construit. Mais pour aller dans le disruptif, pour aller dans l'innovation de rupture, je pense que ça ne peut se faire que par la créativité et l'innovation. Et ça, je pense qu'il faut faire très attention. Encore une fois, je pense que je vois des entrepreneurs qui pensent qu'aujourd'hui, le marketing, le sales, c'est quelque chose qui peut totalement se rationaliser, totalement se mettre dans un process, totalement se penser par des outils, là où c'est pas vrai. Le sales, c'est aller se dire demain passe le grand patron de telle boîte ici, du CAC 40, on va aller le voir et puis on va lui parler et finalement il va être inspiré par ce qu'on arrive à raconter, on va reprendre rendez-vous et c'est ça qui va faire la différence et c'est pas forcément une campagne totalement mesurée. Donc il faut les deux, mais je challenge les équipes à être des fois beaucoup plus data-driven, à beaucoup plus mesurer et d'autres fois se dire lâchez un peu le truc et suivez votre intuition. Et je pense que des fois, on manque un peu d'intuition dans notre monde.
J'adore ça. Et comme on aime bien les citations hein, chez 40 Nuances The Next, j'en aurais une de Einstein, mais qu'on a déjà dit ici, je crois, qui consiste à dire tout ce qui peut se compter ne compte pas forcément et tout ce qui compte ne peut pas forcément se compter.
Pas mal. Pas mal. Pas mal.
Et on peut faire une transition 1000 fois réussie ou une seule fois réussie aussi, et c'est celle-ci.
Les 1000 transitions 1000 fois ratées, voilà. Ça n'existe pas.
Ou alors, franchement, c'est qu'on n'apprend pas de ses erreurs.
Wow.
Eh ben, c'est le moment de la
donc
claque.
C'est la grande
pour nous,
classe
où notre invité n'est plus.
Ça pourrait être aussi un bruit de fessée, mais c'est plutôt une claque.
Je sais pas ce que c'est, je m'attends à tout. Mais...
La rubrique de la claque, c'est juste que quand tu es entrepreneur et que tu es souriant et que tu es beau gosse comme Vincent Huguet, on pourrait croire que tu n'as jamais reçu de claque. Et en fait, ben si. Les entrepreneurs, ils ont tous reçu des claques. Alors ça peut être parfois dans la vie privée, mais c'est des moments à surmonter. Et souvent, l'entrepreneur, il veut se montrer invincible. Alors il ne veut pas montrer sa phase parfois qui peut être... de la solitude, un échec, au moment d'une levée de fonds, un licenciement, quelque chose qui a raté, etc.
Donc et allonge-toi, ferme les yeux.
Et nous, on pense que c'est bien, comme les grands champions, et ben, il faut aussi parler des défaites. Donc si tu as la transparence d'en partager une avec nous, ça nous intéressera et ça participe à la pédagogie du monde entrepreneurial auprès de notre audience, qui est de plus en plus large et qu'on remercie.
Bah, je réfléchis parce qu'il y en a forcément plein. Des échecs, il y en a plein, des claques sûrement. On parlait de notre board. J'ai un board qui est finalement très supportif, très positif. Et je pense que c'est d'ailleurs un vrai métier. C'est-à-dire, je me rends compte que je ne sais pas si je serais être investisseur et justement avoir ce recul et donner ce karma positif sans vouloir forcément dire tout le temps quoi faire et comment le faire. Après, j'en ai reçu quelques-unes. Alors, il fait ça très, très poliment, mais j'en ai reçu quelques-unes de Jean-David sûrement. Je me souviens une fois, un des premiers déjeuners, on était tout au début, il m'a dit non mais arrête tes conneries sur ça et ça, reconcentre-toi sur le produit, mets-toi là où t'es bon, etc. Donc des fois effectivement alors c'est pas forcément toujours verbalisé, mais quand ils te font comprendre que ce truc là c'est pas ton truc, par exemple on parlait de d'administratif, de côté gestionnaire, de côté management, de sales. Voilà, se prendre et accepter et se dire... et du moins, le plus difficile, je pense, dans ces claques-là, c'est quand elles ne sont pas totalement claires et qu'il faut comprendre le message derrière.
Est-ce que la claque, dans ce cas-là, c'est le fait de t'entendre dire ça ou c'est le fait d'avoir à reconnaître que peut-être bah, la personne a raison ?
Ouais, non, c'est de... Bah, effectivement, si tu te rends compte, si tu sais qu'il a raison... Tu sais que tu aurais dû faire autrement et tu sais que ça
donc
t'emmerde.
Donc, c'est pas forcément injuste. C'est,
ah non, c'est
parce
pas du
que
tout
c'est,
injuste.
Ça peut être justifié. Enfin, parfois, peut être injuste. Mais si c'est justifié, il y a, un effort d'admettre, en fait,
Truc. C'est pas du tout c'est pas du tout injustifié et c'est nécessaire. Donc, on parlait tout à l'heure de, effectivement, quel est le rôle de board member, d'investisseur. C'est aussi de savoir mettre ses claques, mais tout en le faisant positivement.
Moi, j'ai appris que le métier d'investisseur que je suis en train d'apprendre maintenant, comme tu as toujours la frustration de ne pas faire, hein, quand tu es investisseur, tu ne fais pas, sinon ce serait de la gestion de fesses, qui est d'ailleurs interdit. Hein, donc, en revanche, le métier, d'ailleurs, c'est entre Benoît Grossman, Jean-David, enfin, tu vois, des vieux de la veille qui ont beaucoup d'expérience, qui ont perdu de l'argent avant d'en gagner beaucoup. Ils disent, en fait, le métier de l'investisseur, c'est de savoir poser des questions. Mais évidemment, savoir poser des questions, ça sous-entend des questions qui font mal. Si c'est que des questions sur lesquelles on attend des réponses positives, ça ne marche pas. Et je pense qu'en fait, si tu te prends... Je trouve c'est merci d'avoir partagé cette claque. Il faut imaginer, en tout cas, moi, je le trouve, maintenant que je commence à être investisseur, que dans un board, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il faut dire les choses. Sinon, le board est inutile. Mais tu sais que ce n'est pas facile et que ça va peut-être parfois blesser la personne.
Et j'en ai eu plusieurs, maintenant que j'y repense. J'en ai eu plusieurs aussi d'Antoine Fraisse, qui a été notre premier business angel. Antoine Fraisse, qui a monté le fonds Kerala et qui a... parcours extraordinaire. Il a investi à quelques mois de différence chez nous, chez Doctolib et dans d'autres succès. Et alors lui, la claque, elle était, mais il le sait, je crois, mais c'était tous les vendredis soirs. En fait, il se prenait, lui, une session. On parlait de work-life balance et du week-end. Tous les samedis matins, je ne sais pas, de 7h à 8h avant que ses filles se lèvent, il travaillait, il faisait un peu le wrap-up de sa semaine. Il te balançait un mail avec « Voilà, j'ai vu que tu as fait ça, ça et ça. Tu n'as pas fait ça, ça et ça. » Il avait totalement raison. C'est nécessaire, c'était vraiment pour moi, c'était pas seulement un investisseur pour le coup, c'était vraiment un quasiment cofondateur, tu vois. Alors, et c'était voulu qu'il soit sur l'opérationnel. Et il était, avec Antoine, en fait, on se connaît depuis le collège, le lycée. Donc, tu vois, on se dit les choses. Et je pense que ça, c'était sain aussi. C'est-à-dire que j'avais des investisseurs autour de la table qui, lui, il vient de sortir du board, donc après 9 ans. J'ai des investisseurs qui me connaissent moins, mais d'avoir un investisseur qui te connaît suffisamment pour te dire les choses et pour te dire, voilà, tu te plantes là-dessus, tu es très mauvais là-dessus, ça, c'est une bonne chose parce que c'est en même temps un ami, donc voilà, on pouvait se le faire.
Ça fait gagner du temps aussi.
Bon, après, il y a quand même la forme. Hein. Si on te dit, t'es vraiment un gros con, t'as pas toujours envie de l'entendre.
Non, c'est pas ça. Non.
Je vous propose, messieurs, de conclure ce format dédié au Next 40 qui, jusque-là, est très masculin, encore un peu plus cette année, bah, par notre rubrique Sista.
Tu as dû être prévenu qu'on allait te demander de désigner une entrepreneuse qui aura droit à un podcast grâce à toi, à un coup de projecteur, sur, parce qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs et on pense qu'il n'y a pas de raison que les métiers de la tech... Enfin, si on regarde les écoles d'ingénieurs, on voit qu'il n'y en a pas assez, mais globalement, avec les statistiques France Digital, moins de 10% des entrepreneurs sont des entrepreneuses. Ça ne suffit pas. Alors, est-ce que tu as sélectionné une femme entrepreneur?
Ouais, j'ai sélectionné Vera Kampf, qui est la CEO cofondatrice de Singular, que j'ai croisée, on s'est croisés quelques fois, mais je l'ai croisée dans un petit déjeuner France Digital avec un ministre dans le cadre de France Digital Day l'année dernière. Je trouve que d'abord parce qu'elle a un charisme, elle dégage une assurance assez incroyable. Et ensuite parce que c'est une boîte qui est peut-être moins connue aujourd'hui que d'autres, mais qui commence à... Enfin, qui a fait certaines levées de fonds, etc. Et qui... elle a réussi à faire en sorte qu'une toute petite, finalement une petite partie de son chiffre d'affaires est français. Et j'étais, tu vois, j'étais à Munich un jour et je vois sur un abribus une pub pour Singular. Alors en plus d'être targeté sur Instagram, etc. Et je crois qu'elle est sur un marché où pour le coup on parlait de confiance. Donc ils vendent de l'art hein, en ligne. Donc c'est pas évident. Hein, il faut là pour le coup c'est l'offre qui crée la demande. Hein, on n'est pas forcément tous en recherche d'art. Mais en proposant les belles choses, en le faisant bien, on parlait de ROI, je pense qu'ils sont très ROI driven sur leur campagne marketing, mais par contre, ils arrivent au niveau du branding, ils arrivent au niveau des créas à faire quelque chose d'assez génial. Et je pense qu'elle est en train de faire une boîte assez incroyable où moi j'aime bien les boîtes aussi qui créent un marché. Tu vois, où le marché n'était pas forcément là et structuré et tu proposes une nouvelle alternative, mais tu crées un marché.
Du coup, on va lui poser toutes ces questions, mais je voulais pas que tu sois trop long parce qu'il faudra justement lui laisser la parole. En revanche, te permettre peut-être de lui poser une question, puisqu'on a Solène, notre magnifique associée.
Alors qu'on ne voit pas du coup à l'écran, mais à la voix radio, de la retrouver au studio.
Qui a une magnifique voix radiophonique et qui ira l'interviewer en ton nom, en notre nom. Alors, est-ce que tu veux lui transmettre une question, puisqu'elle est là en plus?
Je lui poserai une question sur l'internationalisation. À quel moment elle est partie est-ce qu'elle a déjà démarré son business en France ou est-ce qu'il a été tout de suite nativement européen, voire mondial? Et pourquoi ce choix plutôt que le choix que font beaucoup de gens de d'abord construire et de structurer bien les choses en France et aller ensuite à l'étranger?
Eh bien, messieurs, je vous propose de conclure en te remerciant. Mon cher Vincent,
et en finissant, I'd like to swim like dolphin can swim.
Et moi, I want to be a hero.